Il y a parfois des chiffres qui, au premier coup d'œil, ont l'air de simples lignes un peu ennuyeuses dans un budget public.
Ouais, le genre de truc qu'on survole complètement, hein.
C'est ça. Mais en fait, ça cache souvent l'amorce d'une véritable révolution de société. Et là, l'exemple parfait vient juste de tomber. Le gouvernement marocain vient de débloquer un programme de 30 millions de dirhams sur 3 ans.
Ah ouais, quand même, 30 millions.
Et la mission de ce fonds, c'est de soutenir massivement les associations de protection des consommateurs.
Bah, en fait, c'est pas qu'un simple ajustement budgétaire, ça. C'est vraiment l'aveu implicite qu'un énorme changement est en cours. Quand l'État décide d'armer à ce point la défense des consommateurs, c'est qu'il anticipe une complexité totalement inédite sur le marché.
Exactement. Et c'est tout le sujet de notre exploration d'aujourd'hui. Ce financement, il prouve que le pouvoir d'achat, c'est devenu un vrai champ de bataille. Et la nouvelle arme déployée sur ce terrain, le truc qui réécrit absolument toutes les règles, bah, c'est l'intelligence artificielle.
La fameuse IA, ouais.
Aujourd'hui, on fait une immersion totale dans la grande mutation du commerce marocain. Fini le temps où l'IA, c'était juste un concept abstrait, confiné dans les laboratoires de la tech. Maintenant, elle s'invite directement dans notre panier de courses.
Elle est partout, c'est clair.
Elle navigue de manière super invisible, entre d'un côté l'hypermarché ultra-moderne et de l'autre le comptoir du petit Hanout du coin de la rue.
Et le truc, c'est que pour comprendre l'ampleur de ce phénomène, on va pas faire de grandes théories abstraites, hein. L'objectif, c'est d'aller fouiller au cœur d'une série d'analyses hyper concrètes. On se base notamment sur le dossier inaugural du magazine 10 millions de familles.
Très bon dossier d'ailleurs, édité par l'ODJM Dia.
Ouais, un média qui est vraiment dédié au pouvoir d'achat et à la consommation utile. Et on croit ça avec des brèves économiques récentes, des études de marché et des constats super passionnants sur l'artisanat patrimonial.
Donc, la mission de ce décryptage, c'est de trancher une question vitale. Est-ce que cette arrivée massive de l'IA dans le commerce de détail va vraiment redonner de l'oxygène au budget des foyers? Genre avec de meilleurs prix, plus de transparence, un gain de temps, ou bien...
Ou bien est-ce que ça va juste servir à doter les grandes enseignes d'outils redoutables pour influencer, cibler et exploiter la moindre vulnérabilité financière des gens?
Voilà, c'est exactement le cœur du problème. Mais avant de se plonger dans les algorithmes et les lignes de code, il faut absolument regarder le terrain d'atterrissage. Parce que le Maroc a un écosystème commercial qui est vraiment unique.
C'est un vrai modèle hybride en fait. On a une cohabitation directe entre une grande distribution hyper moderne, avec des applications, des cartes de fidélité, des stocks centralisés.
Et d'un autre côté, le commerce traditionnel de proximité, le fameux Hanout, le souk, c'est un système qui, jusqu'à présent, repose pas du tout sur des serveurs informatiques.
Non, ça repose sur la confiance humaine.
C'est ça, le tissu social, la connaissance millimétrée du quartier et surtout le crédit informel, le carnet de l'épicier, quoi.
Et c'est une mécanique sociale complexe. Le défi posé par les sources qu'on analyse, c'est justement d'éviter une espèce de d'IA à deux vitesses. L'hypermarché se dote d'outils prédictifs surpuissants, ok, mais le petit commerçant, lui, il risque la marginalisation totale s'il reste déconnecté de cette innovation.
Et c'est là que je veux qu'on s'arrête 2 secondes, parce que l'image est forte. Au fond, le propriétaire du Hanout de quartier, c'est le tout premier algorithme prédictif, non?
C'est pas faux, ouais.
Ben oui, il sait déjà qui achète quoi. Il sait quelle famille aura besoin d'une avance sur ses courses à la fin du mois. Il ajuste son offre naturellement. Et il fait tout ça sans avoir besoin d'une seule puce électronique. Du coup, je me demande vraiment comment une application, aussi optimisée soit-elle, pourrait un jour remplacer ce filet de sécurité sociale. L'empathie d'un commerçant face à une famille en galère, c'est irremplaçable.
Alors, c'est une super belle analogie, mais elle a quand même ses limites, tu vois.
Ah bon? Pourquoi?
Bah, le commerçant a de l'empathie, c'est indéniable. Mais la machine, elle, a une mémoire parfaite et une capacité d'analyse sur des milliers de transactions. Et ce qui est fascinant ici, c'est que l'objectif n'est pas d'opposer la technologie à la tradition. Le but, c'est pas qu'une appli remplace l'humain au comptoir.
D'accord, c'est plutôt de l'aider.
Voilà. La modernisation du retail doit être une vraie politique d'inclusion économique. Il s'agit d'équiper le Hanout, mais avec des outils hyper simples, pas des usines à gaz logiciels.
Des trucs accessibles, genre sur un smartphone normal.
Exactement. Des interfaces en Darija ou en arabe. Concrètement, l'IA analyse les ventes du commerçant et lui envoie juste une alerte, genre attention, vos stocks de farine ou de sucre risquent de manquer la semaine prochaine avec l'approche du Ramadan.
Ah ouais, super pratique pour anticiper.
Et ça permet de tracer les invendus aussi. Il y a aussi tout l'enjeu du paiement numérique. Les sources mentionnent le Moroccan Consumer Day, où le grand défi, c'était la confiance dans le paiement digital. L'IA doit sécuriser ça pour que le petit commerce gagne en solidité sans perdre son rôle social.
Bon, alors analysons un peu cette mécanique, parce que ce besoin de lien humain, on le cherche aussi dans les grandes surfaces, en fait. C'est ce que les articles appellent le vendeur augmenté.
Le fameux conseiller 2.0.
Voilà. En magasin, l'IA équipe les vendeurs avec des tablettes, des infos en temps réel, des historiques. Mais soyons un peu cyniques 5 minutes.
Allons-y.
Si l'outil appartient à la grande enseigne, l'algorithme qui dicte les conseils sur l'écran, il est programmé pour optimiser quoi au juste ? Le bonheur absolu du client ou la marge bénéficiaire du magasin ?
Ah bah c'est le nœud du problème. C'est ce qu'on appelle l'asymétrie de l'information. Techniquement, l'IA donne aux vendeurs des données complexes, genre la consommation énergétique d'un frigo sur 10 ans. Sur le papier, c'est génial, pour la transparence.
Ouais, sur le papier.
Mais dans la vraie vie, si le moteur interne pousse surtout les produits en surstock ou ceux avec la meilleure marge, le vendeur augmenté devient, un peu à son insu, un outil de persuasion redoutable.
C'est clair. On donne l'illusion de l'objectivité. Parce que, bah, c'est la machine qui le dit, quoi.
C'est exactement le piège de l'illusion numérique. Et sur le e-commerce, c'est encore plus flagrant avec la multiplication des chatbots.
Oh là là, les chatbots. Franchement, décortiquons ça. Mettre un chatbot ultra poli et bavard sur un site web où les fiches produits sont vides, c'est comme mettre un smoking à un vendeur qui connaît rien au catalogue.
C'est une très bonne image.
Il parle bien, mais il sert à rien. Et une étude de Pegasystems qu'on a dans nos documents montre un truc de fou. L'IA séduit beaucoup plus les marques que les consommateurs.
Ah bah oui, parce que pour les marques, c'est une réduction des coûts. Mais le consommateur, lui, il s'en rend compte. Si tu demandes les dimensions d'un canapé ou les conditions de retour et que l'info n'est juste pas dans la base de données, l'IA va juste broder pour masquer le vide.
Si le vendeur virtuel finit par te suggérer le frigo le plus cher, comment l'acheteur peut savoir si c'est un conseil neutre ?
Il peut pas. Et c'est pour ça que pour les achats très engageants, genre l'électroménager ou la santé, le besoin humain de réassurance prime toujours sur la vitesse d'un chatbot. L'IA doit former les vendeurs, pas remplacer leur discernement.
Bon, et si le conseil du vendeur est parfois biaisé, il y a un autre truc que le vendeur donne et qui est encore plus visible, c'est le prix. Et là, l'IA rend le prix carrément mobile. C'est la guerre des prix.
La tarification dynamique. C'est une tension psychologique énorme pour les ménages.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Et un peu flippant. Le prix dynamique, ça transforme l'achat d'un kilo de tomates ou d'une brique de lait en l'équivalent d'un achat de billets d'avion.
C'est exactement la même logique. On a l'arrivée massive des étiquettes électroniques. Alors il y a des avantages, hein. Moins d'erreurs en caisse, le prix au kilo toujours à jour, mais l'algorithme est connecté à plein de flux.
Quel genre de flux ?
Bah, la météo, la date de péremption, la fréquentation du magasin à l'instant T, le prix du concurrent d'en face, et hop, ils calculent le prix optimal.
Mais psychologiquement, comment les familles peuvent préserver ce que le magazine appelle la dignité budgétaire ? Si tu essayes de gérer ton budget au centime près et que l'étiquette change selon l'heure, c'est impossible.
C'est très dur, surtout avec l'inflation actuelle. Les sources rappellent la flambée hallucinante des fruits d'été, des pastèques ou des pêches à plus de 20 dirhams le kilo. Ou à l'inverse, un poulet bon marché dont le prix s'effondre d'un coup. Ça crée de la suspicion sur la qualité.
Et il y a ces histoires complètement dingues de rupture de stock de sardines en boîte, juste à cause d'une tendance virale sur TikTok. Pendant la nuit, l'algorithme capte ça et fait exploser les prix.
C'est l'architecture de la tentation, gérée par l'IA.
Ouais, le syndrome de l'étiquette rouge, avec le compte à rebours, tu sais, le truc qui clignote, c'est en promotion. C'est comme ça qu'on finit par acheter un appareil à raclette en plein mois de juillet. C'est de la manipulation psychologique pure.
Mais il faut relier ça à la confiance. La flexibilité des prix, elle existe déjà au souk, depuis toujours.
C'est vrai, on négocie tout le temps.
Humain et l'explicable, le vendeur te dit qu'il baisse le prix parce qu'il ferme son stand, alors que l'algorithme, c'est une boîte noire, c'est opaque. Et en ce moment, la fraude sur les dates de péremption falsifiées grandit, surtout pendant le ramadan. Donc si on ajoute des prix robots incompréhensibles, les gens perdent complètement confiance.
Sauf que pour personnaliser ses offres et ses prix, la machine a besoin de carburant. Et ce carburant, c'est nos vies privées. C'est les données intimes des foyers marocains.
Le trésor intime, oui.
Et le capteur principal, c'est la bonne vieille carte de fidélité. Fini le truc en plastique juste pour cumuler 3 points. C'est devenu un vrai capteur de comportement.
Ça détecte tout. Une baisse de pouvoir d'achat, une naissance, un changement de régime alimentaire.
Mais il y a une frontière super fine ici. Si le supermarché remarque qu'une famille achète moins de viande rouge et lui propose automatiquement des alternatives abordables, ok, c'est génial.
Un vrai rôle d'assistant.
Exactement. Mais si c'est pour repérer qu'ils sont à découvert à la fin du mois et exploiter cette faiblesse, où s'arrête l'assistant d'achat et où commence la caméra de surveillance planquée dans le panier.
Là, on touche à l'éthique de la donnée. La fidélité devrait être un échange transparent. On donne accès à nos habitudes, mais en échange d'économies réelles, pas juste des points obscurs. Et on le voit aussi dans la beauté ou la santé en parapharmacie.
Bah oui, avec les diagnostics qu'il y a.
Pour analyser la peau, ça soulève des questions immenses. On récolte des données corporelles quasi médicales. Ça fait écho à cette approche intégrée santé et bien-être, évoquée par Bayer Maroc dans nos sources. Mais le consommateur ne doit jamais perdre le contrôle sur son intimité.
Et toute cette accumulation de données finit par dicter ce que l'IA va nous recommander au global. Et là, on aborde un truc fascinant dans les sources. Le parcours d'achat change de nature. On cherche plus sur Google, on interroge une machine.
Le grand passage du SEO à la JO.
Le SEO, l'optimisation pour les moteurs de recherche, je voyais ça comme une grande bibliothèque. Tu cherches un truc, on te donne une liste de livres, de liens. Mais la JO, la Generative Engine Optimization, c'est quoi? L'IA donne plus de liens, elle donne une seule réponse générée et synthétisée.
C'est exactement ça. Demain, la machine lira tout à ta place et te dira juste « voici ce qu'il faut acheter ». Mais pour être choisi par l'IA, les marques doivent fournir des données hyper structurées dans plusieurs langues, en français, en arabe, en darija, en amazigh.
Mais c'est un enjeu crucial pour notre patrimoine. C'est comme passer un entretien d'embauche devant un robot. Les sources parlent de l'art mathématique du Zellige, de la noblesse du Tarbouche de Fès, de la Tobourida, des babouches de Chefchaouen.
Ou l'ingénierie incroyable du tagine, oui.
Si un maître artisan du Zellige ne formate pas son âme et son savoir-faire dans un fichier de données optimisé pour l'IA, l'assistant vocal va juste l'ignorer. Il va recommander aux gens une copie industrielle insipide juste parce que son code informatique est propre.
Malheureusement, oui. Si le savoir-faire marocain n'est pas numériquement structuré, l'IA l'ignorera complètement. Et pourtant, on a un potentiel énorme. Regarde le débat sur l'huile de moringa locale face à l'huile d'olive ou l'inspiration que le Maroc suscite à l'étranger.
J'ai vu l'exemple de la glace américaine, là, Greters.
Exactement, une glace inspirée des saveurs de Marrakech. Et puis, 23% des marques préférées au Maroc sont locales, d'après le classement Brand Africa 100.
C'est énorme.
Oui, mais l'idée finale, c'est que ceux qui définissent les critères de confiance de l'IA détiennent le vrai pouvoir. Les consommateurs vont devoir apprendre à ne pas obéir aveuglément à ces machines pour préserver leur liberté de choix.
Donc, si on résume... L'IA transforme chaque étape de la consommation au Maroc, du en août de quartier à la caisse du supermarché. Ça a un potentiel inouï pour réduire l'asymétrie d'information, pour aider les budgets face à l'inflation. Mais seulement si c'est encadré par une transparence et une loyauté totale.
C'est la condition sine qua non, oui.
Et pour finir, on voulait vous partager une réflexion inédite, un peu provocatrice, tirée d'une brève mention dans nos sources. On parlait de l'IA qui remise automatiquement les produits proches de leur date limite pour lutter contre le gaspillage.
Un très bon point, oui.
Mais et si demain, l'intelligence artificielle allait plus loin et redéfinissait totalement notre conception de la fraîcheur? Imaginons une étiquette connectée, capable de prédire le jour et l'heure exacte où un produit perd sa valeur nutritionnelle, en fonction de la chaîne du froid réelle qu'il a subi, et pas juste une date imprimée par défaut en usine.
Ça changerait absolument tout. Ça pourrait signifier la fin de cette psychose des dates d'expiration standardisées.
Complètement. Ça modifierait à jamais notre rapport au gaspillage alimentaire et même le rythme de nos courses. De quoi y réfléchir sérieusement la prochaine fois qu'on vérifiera fébrilement la date sous une boîte de conserve.
C'est sûr, ça donne matière à réflexion.